Tesoro, une nouvelle inédite de Morgane Kilikini pour le magazine Cui. Saverio déboula de la scouliche comme un animal fou, retenant d'une main sa casquette pour l'empêcher de s'envoler. Le bruit de ses pas sur le pavé résonnait contre les façades des immeubles endormis. Dans son dos, les cloches de l'église de l'Annonciation sonnèrent 22 heures. Il n'avait rien à faire dehors à cette heure, il le savait très bien. Mais c'était le curé qui l'envoyait, et un ordre du curé, ça ne se discutait pas. Il traversa l'extrémité de la place Paoli sans ralentir et tourna à droite pour s'engouffrer dans les Lubiace. Il serait chez le maire dans quelques minutes et sans doute qu'il le réveillerait, mais il ne venait pas de la part de n'importe qui et il espérait ne pas être grondé trop fort. Sa soirée, qui avait pourtant débuté normalement, avait tourné au vinaigre quand ses parents avaient commencé à se disputer. C'était toujours la même engueulade. Son père rentrait de sa journée en sentant un peu trop fort le vin. Sa mère se mettait à crier, son père répondait, et en quelques secondes, les objets et les insultes volaient. Ensuite, il y avait deux possibilités. Soit le père repartait en claquant la porte derrière lui, soit tous les deux s'enfermaient dans leur chambre. Ce soir-là, Saverio n'avait pas eu envie d'attendre jusque-là, et il était sorti. Il avait traversé la belle esplanade Saint-Théophile que l'on avait inaugurée 2 ans plus tôt, et il était allé traîner du côté de l'église. C'est en passant devant la lourde porte en bois demeurée entrouverte qu'il avait entendu la discussion, plutôt animée, du curé avec le premier prieur de la confrérie Saint-Joseph. Il avait passé la tête dans l'entrebâillement, et comme le curé tournait le dos à l'autel, il l'avait immédiatement aperçu. D'abord il avait voulu l'enguirlander, puis il s'était repris et l'avait envoyé quérir le maire le plus rapidement possible. Monsieur Harrigue s'était effectivement endormi dans son fauteuil, son menton reposant sur son énorme poitrine d'un paisible sommeil qui fut brutalement interrompu par des coups frappés à la porte. Il se leva en grommelant et alla ouvrir la porte. C'était un homme intelligent dont les années n'avaient pas épargné le corps, sans toutefois entamer l'esprit. Et l'état d'excitation de l'enfant qu'il trouva sur le palier suffit à le convaincre qu'il lui fallait se hâter. Il ne discuta pas et monta jusqu'à l'église, aussi vite que le lui permirent ses vieilles guiboles et ses poumons flétris par 5 décennies accrochés à une pipe. Dans la nef, le curé et le prieur se trouvaient au même endroit qu'un peu plus tôt, discutant toujours vivement, quoique à voix un peu plus basse. « Je faisais un rêve merveilleux, » brailla le maire en entrant. « J'espère que c'est important, mon père. » Le curé était un homme flegmatique et il se contenta de hausser les épaules en se plaçant vers l'autel. « Je le crois, monsieur le maire, » dit-il. « Il fallait absolument que je vous montre cela avant que l'église ne soit pleine des fidèles pour l'office demain matin. » Les 3 hommes se dirigèrent ensemble vers le chœur, laissant sur place Saverio qui savait pertinemment ce qu'il était censé faire. Demi-tour et rentrer chez lui. À la place, il se coula sur le banc le plus proche et se ratatina sur lui-même pour ne laisser dépasser de la rangée que le haut de sa tête. Il vit le maire, le curé et le prieur contourner l'autel et disparaître derrière, comme s'il s'était agenouillé. Il entendit le maire jurer, et le prieur étouffer une exclamation indignée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda M. Harry. Il a été découvert par les ouvriers qui travaillent en ce moment à la restauration de la sacristie. Je leur ai demandé de déplacer quelques plaques de marbre qui y sont entreposées. En passant derrière l'autel, l'un d'eux a trébuché et fait tomber son chargement qui a brisé le dallage. Au début, j'ai voulu ne pas en tenir compte, mais quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était sans doute plus important que ce que je supposais initialement. « Je suis d'accord, » murmura le maire. « On ne peut pas l'ignorer. »«
Saverio, qui fâche aiguille ?»
Monsieur Harrigue venait d'apercevoir le gamin tassé sur son banc et qui se releva comme un ressort en entendant son prénom.
« Rien, rien, monsieur le maire, »
balbutia-t-il en s'extirpant de la rangée.
« Je m'en vais. »« Non, attends, »
intervint le curé. « Attends une minute. » Il se tourna vers les 2 autres et chuchota. « Nous savons tous les 3 qu'il faut aller voir de quoi il s'agit, mais si je me fie à mes yeux, nous n'en sommes capables ni vous ni moi. » Le maire acquiesça en silence, puis se redressa et se tourna de nouveau vers la nef, où Saverio demeurait debout, dansant d'un pied sur l'autre, vaguement inquiet à l'idée que l'on aille se plaindre de son comportement à ses parents.
Es-tu capable de garder un secret ? Demanda-t-il. « Oh oui, monsieur le maire, » répondit précipitamment l'enfant. « Tu en es bien sûr. Si tu viens voir ce qui se passe ici, tu devras probablement ne jamais en parler à personne, ni à tes parents, ni à tes amis. Tu comprends ?»« Oui, monsieur le maire, » répéta Saverio, « je ne dirai rien. » Alors approche. Il remonta la nef en trottinant et contourna l'hôtel vibrant d'excitation. Il ne savait pas bien à quoi il s'était attendu, mais ce qu'il vit fut à la fois un choc et une déception. Un choc parce que ça n'avait rien à faire là, une déception parce que ça n'avait rien de très impressionnant. Il y avait un trou dans le sol. Un trou très noir, au bord irrégulier, qui semblait ne déboucher sur rien du tout. Un trou en forme de bouche grimaçante. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il à son tour. « Tu le vois bien, » dit le prieur d'un ton inquiet et impatient. « C'est un trou. » Saverio se retint de lui jeter un regard noir. « Nous l'avons découvert cet après-midi, » reprit le curé. « Et nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'une dépression naturelle, peut-être creusée par une veine d'eau. Mais ensuite, nous nous sommes aperçus qu'il y avait des marches. » Saverio regarda de nouveau la béance et repéra quelques degrés qu'il n'avait d'abord pas vus et qui s'enfonçaient dans l'obscurité. « Ces marches signifient que tout ceci a été aménagé par la main des hommes, et dès lors, nous ne pouvons plus l'ignorer. « Il faut aller voir ce qu'il y a là-dessous, » conclut le maire. « Et tu es le seul à pouvoir te faufiler. Qu'en penses-tu » Saverio jeta à nouveau un coup d'œil dans le trou, nettement moins confiant qu'une minute plus tôt. Il n'avait jamais beaucoup aimé l'obscurité, mais d'un autre côté, sa curiosité d'enfant adorait par nature tout ce qui avait l'air mystérieux. Il s'accorda 10 secondes de réflexion avant de hocher la tête. « J'y vais, » dit-il. « Mais je vais avoir besoin de lumière. » Le curé s'éloigna et revint rapidement avec une lampe torche électrique, un modèle italien sans doute abandonné par un soldat au moment de la libération. Il testa le faisceau lumineux et donna l'objet à Saverio, qui avait déjà passé ses jambes dans le trou et posé ses pieds sur la première marche. Monsieur Harrig s'agenouilla avec peine pour se placer à sa hauteur. « Quoi que tu trouves là-dedans, fais bien attention et ne touche à rien. S'il y a le moindre danger, fais demi-tour et reviens vite. » Le gosse acquiesça et sans réfléchir davantage, il se glissa dans l'ouverture et disparut dans le sol. Il faisait nettement plus froid que dans l'église et presque instantanément, il se mit à exhaler une légère vapeur. Il braqua sa lampe dans toutes les directions, éclairant des murs en briques qui se refermaient en voûte au-dessus de sa tête et un tunnel au sol meuble qui partait vers l'ouest. La voix du curé lui parvint d'en haut. « Tout va bien, Saverio ?»« Oui, mon père, il y a un tunnel, je vais le suivre. »« Sois très prudent !» La remarque le fit sourire. La prudence ne faisait pas vraiment partie de ses qualités. Il aspira un grand coup et se mit en marche. Très vite, la faible lumière qui coulait du trou disparut et il se retrouva seul dans le noir. Il se demanda si sa mère s'était rendue compte de son absence, si elle l'attendait inquiète sur le pas de la porte ou bien si, avec son père, ils en étaient encore à se réconcilier. Pour se concentrer sur autre chose, il se mit à compter ses pas. Il en était à 143 quand, brusquement, quelque chose changea. Il n'aurait pas su dire quoi. C'était comme si l'air était différent, plus léger, plus facile à respirer. 30 pas plus loin, le tunnel s'élargit, sur les côtés comme en hauteur, et le sol de terre battue se changea en un beau pavage de pierre bien lisse. Le cœur de Saverio accéléra. Il ne savait pas ce que ce serait, mais il n'allait pas tarder à déboucher sur quelque chose. Effectivement, 22 pas plus loin, il se trouva nez à nez avec une porte. Elle était large et en bois massif, percée d'un œil de bœuf protégé par une grille. En guise de poignée se trouvait un large anneau du même style que l'on utilisait pour attacher les ânes. Saverio s'arrêta et réfléchit. Qui avait-il derrière cette porte ? Il n'en avait évidemment aucune idée. Il n'était même pas sûr de l'endroit précis où il se trouvait, ayant depuis longtemps perdu son sens de l'orientation. Le maire et le curé avaient insisté pour qu'il revienne en cas de danger, mais se trouvait-il en danger ? Il n'en avait pas l'impression. Il se disait en revanche que s'il revenait avec pour seule information la présence d'une porte au bout d'un tunnel, il décevrait tout le monde à coup sûr. Non, il fallait qu'il en sache plus. il fallait qu'il ouvre cette porte. Il commença par se hisser aussi haut qu'il le pouvait sur la pointe des pieds, mais l'œil de bœuf demeurait inaccessible. Il hésita encore un instant, puis se décida d'un coup, attrapa l'anneau et tira dessus de toutes ses forces. D'abord, il ne se passa rien, et la partie la plus craintive de sa conscience exulta. Puis, doucement, la porte pivota sur ses gonds en grinçant et s'ouvrit en grand. Saverio déglutit avec difficulté. Son cœur battait maintenant à tout rompre. Il s'avança néanmoins et découvrit une pièce. Une salle de dimension modeste, circulaire, dont le centre était occupé par une estrade sur laquelle était posé un brasier où jadis on avait dû faire du feu. Il fit quelques pas en balayant les lieux avec sa torche, jetant des regards dans toutes les directions et d'abord, il ne vit rien. Rien sauf une porte, semblable à celle par laquelle il était arrivé et qui s'ouvrait dans le mur de l'autre côté de la salle. « Bon, se dit-il, on dirait que ce n'est pas ici que je m'arrêterai. » Il ne se sentait pas réellement effrayé ou en danger, mais le noir total et le silence qui l'entouraient commençaient à devenir oppressants, et il aurait été ravi que la salle ronde soit son terminus. Pour autant, il avait fait une promesse et il tenait à l'honorer. Il rassembla donc son courage et se dirigea vers la seconde porte. Il l'avait presque atteinte quand il remarqua quelque chose, à la limite du pinceau lumineux de sa torche. Il s'approcha et s'agenouilla devant ce qui ressemblait à une pile de paquets posée à même le sol, enveloppée dans du papier brun épais et solidement ficelé. Il en compta 11, de tailles différentes, empilés les uns sur les autres. Posant sa lampe sur le côté, il s'empara du premier. Remarqua qu'il était plutôt léger, le retourna dans tous les sens, le secoua pour voir. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui pouvait se dissimuler sous le papier, et l'idée d'ouvrir au moins ce premier paquet lui effleura l'esprit, mais il se ravisa aussitôt. S'il faisait une bêtise, il allait encore se faire enguirlander, et son quota était déjà bien entamé pour la soirée. Accroupi dans le noir, il réfléchissait. Fallait-il retourner en arrière pour apporter ce qu'il avait trouvé ? Ou continuer à avancer ? Sa découverte était-elle importante ? Avait-il le droit d'y jeter un coup d'œil ? Finalement, il opta pour un compromis. « Je marche encore 50 pas après la porte, et si je ne trouve rien de nouveau, je retourne dans l'église en emportant un paquet pour leur montrer. Et si ça ne leur convient pas, ils n'auront qu'à agrandir le trou pour y passer leurs grosses fesses et venir voir par eux-mêmes. » Content de sa décision, il se releva, reprit sa lampe, et tira sur le second anneau comme il avait tiré sur le premier. Sauf qu'il ne se passa rien. Et après plusieurs minutes à s'échiner et à se blesser les mains, il conclut que cette porte-ci était verrouillée et qu'il ne lui restait plus qu'à passer à la deuxième phase de son plan. Encombré par le paquet, il avait pourtant pris l'un des plus petits, il guettait la lueur qui lui indiquerait l'arrivée comme un assoiffé guette le bruit d'une source d'eau claire. Il revint finalement à son point de départ, gravit les marches qui remontaient vers l'église en poussant son chargement devant lui et sortit enfin du sol. « Alors ?» demandèrent les hommes en se ruant sur lui. Saverio raconta sa brève aventure et termina en montrant le paquet. « Je ne l'ai pas ouvert, il y en a 10 autres comme celui-là en bas. » Le curé s'agenouilla et entreprit de défaire les nœuds, ce qui lui prit un moment. Saverio trépignait et même le maire semblait avoir arrêté de respirer. Finalement, le papier tomba et le curé se saisit de ce qui, de dos, ressemblait à une sorte de planche de bois. Saverio s'étira le cou pour tenter de voir l'endroit de l'objet pendant que le visage du curé devenait blanc comme de la craie. L'abbé Alexandre Léandre avait toujours considéré l'art comme l'un des plus beaux moyens pour entrer en contact avec le divin. Aussi, en parallèle de sa formation religieuse, s'était-il adonné à l'étude de grands peintres, sculpteurs et poètes de l'histoire. Et tandis qu'il considérait De Vinci comme un quasi-hérétique, il admirait la luminosité de Botticelli et la puissance du Caravage. Pendant les années qu'avait duré la guerre, il s'était régulièrement tenu informé de ce qu'il advenait des fonds des grands musées d'Europe et des spoliations orchestrées par le régime nazi. 5 ans après l'armistice, il savait, comme tous ceux qui s'y intéressaient, que de nombreuses œuvres d'art demeuraient introuvables, certaines supposément perdues, d'autres vraisemblablement détruites. C'est pourquoi il avait tant de mal à croire ce qu'il avait sous les yeux. tant de mal à croire que cette huile sur toile d'environ 45 cm sur 50, représentant un personnage vêtu de bleu et portant un chapeau à large bord, cheminant sur une route dorée devant un paysage de champs, était bien ce qu'il pensait qu'elle était. « Saverio, » murmura-t-il. « Redis-moi où tu as trouvé cela. » « Comme je vous l'ai dit, mon père, par terre, dans la salle ronde. » « Et tu dis qu'il y en a d'autres ?»« J'en ai compté 11 en tout. » Le curé déglutit péniblement et tourna le cadre vers le maire en récitant. Portrait de l'artiste par lui-même sur la route de Tarascon, Vincent Van Gogh. Monsieur Harrig y en laissa tomber sa pipe. Il savait parfaitement qui était Vincent Van Gogh et avait une vague idée de la valeur que pouvait avoir un tel tableau. « Il est censé avoir brûlé dans les mines de Neustadtfurt, » expliqua le curé. « Je n'en reviens pas de l'avoir dans les mains. » Il ferma les yeux quelques secondes et dit « Je ne peux en déduire qu'une chose, c'est que les 10 autres paquets trouvés par Saverio doivent aussi renfermer des œuvres d'art que le monde entier pense détruites. Comment elles sont arrivées là, je n'en ai pas la moindre idée. » « Et ce n'est pas le plus important, » asséna le maire, dont la figure prenait une intéressante couleur rouge brique. « L'important, c'est qu'elles y soient et que nous le sachions. Il faut redescendre dans cette galerie et remonter ces trésors à la surface. Vous n'en ferez rien !» Les deux hommes se tournèrent d'un seul mouvement vers la voix qui venait de s'élever. C'était le prieur qu'ils avaient un peu oublié et qui s'était assis à l'écart depuis quelques minutes. Il ne s'était pas levé, mais il dardait à présent sur eux un regard étrange, fait de détermination et d'une pointe de folie. Un regard que personne ne lui avait jamais vu. « Marcel, » dit le maire, « au nom du ciel, qu'est-ce que vous racontez ?»« Je dis que vous ne ferez rien, » répéta l'autre en se levant finalement. « Les paquets sont en sécurité là où ils se trouvent et pour l'heure, ils ne doivent pas en bouger. »« Vous avez l'air d'en savoir beaucoup, » dit calmement le curé. « Racontez-nous. Vous savez très bien que rien de ce que vous direz ne sortira d'ici. » Il décida finalement que c'était sans doute plus sage. Le temps du silence était révolu. « C'est assez simple, » dit-il. « Je suis membre d'un réseau de résistants baptisé Renaissance. Nous avons des agents présents dans plusieurs pays. Notre mission consiste à retrouver, récupérer et mettre à l'abri les œuvres d'art spoliées par les nazis. Les 11 paquets découverts par Saverio sont 11 peintures absolument majeures que nous avons convoyées dans le plus grand secret afin de les cacher ici, en lieu sûr. » Quand le temps sera venu, elles seront restituées à ceux qui les possédaient avant la guerre. Mais Renaissance pense que la situation en Europe est encore trop instable et que pour le moment, les tableaux doivent demeurer cachés. Renaissance, murmura le curé. En dehors de la période historique, ce nom m'évoque quelque chose. Nous existons depuis bien longtemps, depuis bien avant 1939 en réalité. Les guerres sont toujours des portes ouvertes au vol et à la destruction de l'art. Nous existons pour lutter contre cela. Et ces tunnels, comment saviez-vous qu'ils existent ? Ils ont été creusés du temps de Vincentello d'Istria, pour permettre les évacuations en cas de siège. Nous sommes quelques initiés à connaître leur présence, à les entretenir et à les utiliser en cas de besoin. La conversation ne dura pas. Le curé et le maire se rangèrent à l'avis du prieur et firent serment de ne rien divulguer de ce qu'ils savaient. Saverio, fier qu'on lui fît confiance, jura aussi. Il était plus de minuit quand on se sépara, liés désormais par un pacte inviolable. Santo Harrig y mourut d'une attaque 3 semaines plus tard. Des années d'excès en tout genre avaient transformé ses pauvres artères en passoires et elles déclarèrent forfait alors qu'il dictait une note à sa secrétaire. Il était mort avant de s'effondrer tout à fait et il emporta le secret avec lui. L'abbé Alexandre Léandre et le prieur Marcel Casanova se tuèrent dans un accident de voiture alors qu'ils allaient visiter un ami malade à l'hôpital de Bastia, un mois après. À l'instant où ils rejoignaient Dieu, tous deux eurent une ultime pensée pour les tableaux cachés dans les sous-sols de Corté. Le jour de l'enterrement, parce qu'il avait de la peine et parce qu'il comprenait qu'il était désormais le seul dépositaire du secret, Saverio pleura beaucoup. Mais fidèle à sa parole, il ne dit rien. Et le temps commença à passer. Les tableaux enterrés devinrent doucement une sorte d'obsession qui l'accompagnait partout où il allait. Avant de quitter l'église ce fameux soir, il était retourné dans le tunnel pour mettre le Van Gogh là où il l'avait trouvé. Le lendemain, le trou avait été soigneusement rebouché. Et une question commença à le tarauder. Quels étaient les autres tableaux ? Ses recherches partirent de là. D'abord, il emprunta un livre à la bibliothèque de son école, puis il commença à interroger les gens intelligents qu'il connaissait, comme son instituteur ou le médecin de famille. Le temps passa et il grandit. À 17 ans, il écrivit une lettre aux archives de Bastia. À 20 ans, il s'adressa au musée du Louvre, puis directement au ministère. Il se fit passer pour un professeur, un chercheur ou pour un peintre, expliquant s'intéresser à la question des tableaux perdus pendant la guerre, dans un but purement scientifique et philosophique. Il reçut quelques réponses, quelques indications, recopia des pages de livres, découpa des articles de journaux, et peu à peu, remplit une boîte en carton qu'il trimballa durant toute sa vie. Alors qu'il devenait un homme, se mariait, avait des enfants, reprenait et faisait prospérer l'entreprise de son père, il continuait d'enquêter. Il avait 64 ans quand il découvrit Internet et ses miracles. À l'âge de la retraite, il avait dressé une liste qui contenait 10 noms en plus du Van Gogh. Avec ces noms, il compléta une lettre qu'il avait écrite 40 ans plus tôt à l'intention du réseau Renaissance, mais qu'il n'avait jamais envoyé faute de destinataire identifié. Il la rangea dans la boîte en carton. Quelques années passèrent encore et une triste vérité commençait à s'imposer dans l'esprit de Saverio. Jamais il ne reverrait ses tableaux, ni ne les rendrait acquis de droit. À présent, il était un vieux monsieur. Ses mains de ferronnier étaient percluses d'arthrite et il était bien incapable de redescendre dans le tunnel. Mais il ne pouvait envisager d'enterrer le secret avec lui, de partir en abandonnant un tel trésor. Le jour de son 80e anniversaire, sa famille lui organisa une grande fête à laquelle tous ses proches furent conviés. On rit, on but, on mangea, on souffla les bougies. L'air était doux. Un nouveau printemps s'installait et il savait que pour lui, il n'y en aurait pas beaucoup d'autres après celui-là. Il comprit en regardant ses proches que le temps était venu et qu'il ne pouvait plus reculer. En début de soirée, Saverio appela sa petite fille. « Viens, ma chérie, on va marcher un peu dans le jardin. »« Tout va bien, Babo ? Tu aimes les secrets ? J'en ai un pas croyable à te raconter. »
Outezo, une nouvelle inédite de Morgane Kilikine pour le magazine Cui, lue par Margot Kilikine. Réalisation, Jean-Christophe Attard, pour l'agence Totem.